Le journal Josette Seydoux.
Bonjour, la détection de GHB n'est pas automatique et toutes les victimes présumées n'effectuent pas de test. Dans ce journal, on évoque les procédures en place dans les hôpitaux de la région pour dépister cette drogue, un traitement qui peut varier en fonction des établissements. Aigné est au régime minceur depuis plusieurs mois. La marque d'eau minérale vaudoise de Nestlé rencontre des problèmes d'approvisionnement. Les minéraliers sont dans l'expectative. Le HC Tramelan se sépare de Lucien Ramseyer. Le club de Première Ligue a licencié son entraîneur mercredi soir, malgré son ascension au Master Round supérieur. On entendra les explications du président du club. Et puis météo, le brouillard peut être tenace en pleine aujourd'hui, mais avec de bonnes chances pour qu'il se dissipe en cours de journée. Vous pensez avoir été drogué à votre insu, mais comment en être sûr? La question se pose après les témoignages relayés la semaine dernière de deux jeunes femmes dans la région par Télébilingue. Elles indiquent avoir été victimes de soumission chimique au GHB à l'occasion de la thune partie de Corgémont. L'une d'elles a même été transportée à l'hôpital, mais aucun test de dépistage n'a été pratiqué, alors qu'elle indique que cela avait été le cas lors d'une précédente situation dans un autre établissement. Anthony Montandon, vous nous expliquez pourquoi.
Alors la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de protocole fixe commun à tous les hôpitaux. La direction bernoise de la santé nous a indiqué qu'il n'existe pas de marche à suivre au niveau cantonal, au contraire par exemple du canton de Vaud qui a introduit il y a 4 ans le dépistage automatique en cas de suspicion. Dans la région, les tests ne sont du coup pas systématiquement effectués. Au sein du réseau de l'ARC, on nous répond qu'après un entretien et une première évaluation pour exclure d'autres substances, un examen de détection est proposé. Le test n'est pas systématique, il résulte du jugement clinique, sauf s'il s'agit d'une demande de prélèvement par les autorités de police, précise la porte-parole. Mais on assure par contre qu'il n'y a pas de différence de procédure entre les différents sites du réseau.
Mais Anthony, toutes les victimes potentielles ne vont pas toujours jusqu'au test.
C'est ce qu'on nous confie du côté du centre hospitalier Bienne. Si la possibilité de tirer au clair une suspicion d'intoxication est apparemment assez thématisée, comprenez que les demandes sont assez fréquentes. Les personnes vont rarement au bout du processus. Aucun des hôpitaux ne tient d'ailleurs de statistiques détaillées. Il faut dire que plusieurs obstacles peuvent se dresser sur le chemin des personnes qui soupçonnent avoir été intoxiquées au GHB. Déjà, la vitesse à laquelle il faut procéder l'examen, la substance ne reste que quelques heures dans l'organisme, 8 dans le sang et 12 dans l'urine, d'après le CHB. Au réseau de l'ARC, on explique aussi que les tests rapides doivent aussi être confirmés par un examen standard, puisqu'il peut y avoir des conséquences légales. Les prélèvements sont ensuite envoyés vers des laboratoires externes. Et le coût peut aussi être un frein, c'est ce que révélaient les deux jeunes femmes interviewées par Télébilingue. Et là encore, il peut y avoir des différences en fonction de l'hôpital ou de la méthode utilisée pour détecter la présence de GHB. Car il n'y a pas d'harmonisation au niveau des prix. Le journal du Jura parle d'au moins 100 francs, parfois le double, montant qui n'est pas remboursé par l'assurance maladie, excepté parfois pour des raisons médicales, explique le JDJ.
La police cantonale bernoise recommande en tout cas à toute personne qui soupçonne d'avoir été droguée à son insu de la contacter dans les plus brefs délais. Dans le cadre d'une procédure pénale, les tests de dépistage de substances revêtent une importance essentielle, précise un porte-parole. Les forces de l'ordre accompagnent ensuite la personne concernée à l'hôpital et se concertent avec le ministère public compétent. Le Parti socialiste Grand Chasseral entre en campagne. Ce matin à Sonsbeau, les candidats au Grand Conseil, au Conseil du Jura bernois, mais aussi Hervé Gulotti, candidat au gouvernement, ont présenté leur programme en vue des élections du 29 mars. On le rappelle, c'est la première fois depuis des décennies que les forces socialistes avancent unies dans la région. Mais le départ de Moutier, bastion socialiste, pourrait rebattre les cartes. Le PS Grand Chasseral le prend en considération. Il a pour ambition de maintenir ses 4 sièges au Grand Conseil et ses 7 sièges au CJB, tout en visant une progression nette en termes de suffrage. Vous vouliez de la bleue, de la verte ou de la rouge? On ne parle ni de fée ni de pinard, mais bien d'eau minérale. Aigné est victime de problèmes d'approvisionnement. Certains clients, particulièrement attachés à la version rouge, la plus gazéifiée, d'une des rares marques romandes d'eau minérale, doivent prendre leur mal en patience ou se résoudre à boire du moins local. Les aignées vertes et bleues sont aussi impactées par la pénurie. Les explications d'Adrien Juvet.
Nestlé nous a confirmé les problèmes d'approvisionnement rencontrés à Aigné. Le groupe avance deux raisons principales. Une demande exceptionnelle durant les semaines les plus chaudes de l'été dernier qui a mis à mal les stocks et une disponibilité réduite des sources d'eau minérale. Car il faut savoir qu'Aigné ne prend que ce que la nature lui offre sans pomper l'eau. La marque vaudoise a donc réduit ses livraisons. D'abord les grandes bouteilles, puis les plus petites. Contacter une porte-parole de Nestlé indique que le groupe travaille activement à résoudre ce sujet.
Et c'est ce qui semble être le cas auprès des minéraliers de la région. L'entreprise Auderset et compagnie à Sonsbo livrent dans toute la région de Bienne un chaude-fonds passant par le Vallon et la vallée de Tavannes. La pénurie d'eau gazeuse de la marque Aigné a eu un impact important. On écoute Claude Auderset.
Je me suis retrouvé tout d'un coup à réceptionner un camion Aigné. Et puis quand le chauffeur il a ouvert sa plateforme, eh ben, on s'est rendu compte que sur les 8 palettes commandées, j'en recevais que 2. Donc quand vous vous retrouvez en pleine saison à devoir fournir des manifestations et puis que vous avez un jour et demi pour vous retourner, pour trouver des combinaisons afin de satisfaire les clients finaux, c'est un petit peu stressant, je dirais.
C'est quoi comme alternative que vous avez trouvée ?
Alors moi, je voulais absolument rester sur des sources minérales du pays. Donc on s'est rabattu auprès d'autres marques. On a les sources Eptinger, on a les sources Adelbodner, qui sont finalement toutes proches de chez nous hein, au niveau produits du terroir. Adelbodner, c'est nos montagnes bernoises. On a des sources comme Passouguer, il existe Balzer, il existe plein d'autres ressources. Mais c'est vrai qu'il y a un attachement auprès de la marque Aigné qui fait un peu mal au cœur de ne pas pouvoir fournir. C'est quand même aussi une des plus grandes sources qu'on a du pays. Donc ça fait un gros manco sur le marché des eaux minérales.
L'État pourrait intervenir pour que l'indemnisation des victimes de Crans Montana soit équitable. 2 semaines après le drame, les questions financières prennent de l'ampleur. Frais médicaux considérables durant de longues années, dédommagement des victimes et leurs familles. Les contrats d'assurance étant plafonnés, l'État pourrait devoir intervenir selon une information de la RTS. La biodiversité poursuit son déclin en Suisse. Un tiers des espèces sont menacées et la moitié des milieux sont dans un état dégradé. C'est ce que révèle un rapport publié cette semaine par l'Académie des sciences naturelles. 50 experts ont compilé et analysé les données actuelles pour avoir un nouvel état des lieux de la biodiversité en Suisse, mais aussi pour évaluer les moyens d'action. Le rapport met en avant les réussites et les mesures qui fonctionnent le mieux. Quelques exemples avec Antoine Guizan, professeur à l'Université de Lausanne en écologie et biogéographie.
Il y a typiquement les surfaces de promotion de la biodiversité dans les milieux agricoles. Il y a aussi des modes, par exemple, de culture. La culture biologique favorise largement la biodiversité par rapport à des modes plus traditionnels. Et puis, il y a aussi toute une série de mesures, par exemple, en forêt, de laisser du bois mort, de laisser des arbres morts sur pied, éviter les coupes rases, faire de la gestion sélective, a amené une grande amélioration, notamment de la quantité de bois mort en forêt, donc des espèces associées, même si on a encore du chemin à faire. Donc, il ne faut surtout pas arrêter ce type de mesures. Et dans certains milieux aquatiques qui sont en fait les plus menacés, les plus dégradés déjà. On a des mesures qui fonctionnent. La réintroduction des castors et le développement des castors est un facteur qui réellement peut améliorer la biodiversité dans les rivières par la construction des barrages, l'augmentation des habitats variés dans une rivière. Il y a aussi la divagation des cours d'eau, hein. Arrêter de les canaliser pour les laisser plus divaguer, ça crée beaucoup de différences d'habitats entre des habitats où l'eau est plus courante ou elle est moins courante, etc.
Ces mesures favorables à la biodiversité doivent être maintenues et renforcées, souligne le rapport. Il propose de mobiliser davantage l'ensemble des acteurs, les autorités, les entreprises et la population. Nous avons besoin de ces semi-conducteurs pour notre sécurité nationale. C'est ce qu'a indiqué le ministre américain au commerce après l'annonce d'investissements massifs de Taïwan aux États-Unis. Le résultat de mois de négociations bilatérales, Howard Lutnick a précisé l'objectif, amener 40% de la chaîne d'approvisionnement taïwanaise en semi-conducteurs aux États-Unis. Le Premier ministre a salué ce matin cet accord commercial durement gagné. Il a permis d'abaisser les droits de douane imposés par Donald Trump de 20 à 15%.
Il est 12h24 sur RJB, Josette Sédoux. Il faut qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe du côté du vestiaire.
RJB, sport.
Le HC Tramelan se sépare de Lucien Ramseyer. Le club de première ligue a licencié son entraîneur mercredi soir, malgré son ascension au Master Round supérieur, après avoir fini in extremis à la 6e place. Les requins étaient dans une spirale négative depuis fin novembre. C'est le directeur technique Patrick Glanzmann qui assura à l'intérim jusqu'à la fin de la saison en remplacement de Lucien Ramseyer, qui était en poste depuis une année et demie. Les explications du président du HC Tramelan, Frédéric Effeli.
Bah, disons que après un excellent début de saison où on était troisième au classement, ça fait maintenant 9 matchs qu'on a des résultats qui sont pas satisfaisants. Sur 9 matchs, on en a gagné 2. On est dans une dynamique qui est clairement négative. Et puis le but, c'était avant les playoffs, c'est d'essayer de créer un déclic et corriger la suite de la saison.
Comment vous expliquez cette dynamique négative ?
Moi, c'est une dégradation lente, mais très, très suivie. Je pense dans le vestiaire, dans le message de l'entraîneur. Le message passe plus vraiment auprès des joueurs. Maintenant, c'est pas forcément que la responsabilité du coach. Je pense que c'est à toutes. On voyait très bien que l'équipe répondait plus comme elle le devait par rapport au message à Lucien. Et je pense que, voilà, autant pour le club, je pense que c'est une décision qui était nécessaire pour le club, pour l'équipe, mais également pour Lucien qui avait quand même des difficultés à faire passer son message.
Quand vous parlez de message, c'est un problème de personne, c'est plutôt système de jeu, stratégie ?
Alors la stratégie, elle a fonctionné en début de championnat, donc on ne peut pas dire que la stratégie était forcément mauvaise, mais disons que les équipes, elles s'adaptent aussi à notre stratégie. On n'a peut-être pas su évoluer par rapport à la façon de jouer de début de saison. On aurait aussi peut-être dû nous s'adapter aux autres équipes, ce qu'on n'a pas su faire. Maintenant, je pense que c'est pas qu'une question de stratégie, je pense que c'est aussi une question de message personnel envers certains joueurs qui aujourd'hui, voilà, il y a peut-être un peu de lassitude par rapport à la façon de fonctionner et il aurait fallu peut-être s'adapter, ce qui n'a pas été fait.
Le HC Tramelan qui se sépare aussi de son troisième meilleur compteur, Denis Rochetkov. Les hockeyeurs du Jura Bernois entament le Master Round supérieur demain soir avec un déplacement chez le leader Martigny. Et puis l'aventure s'arrête en quart de finale pour la Suisse et ses régionales au championnat du monde des moins de 18 ans de hockey sur glace. Les Helvètes se sont inclinés 2-1 contre la République tchèque hier soir au Canada. Naya Moni de Corcelle et Alexandre Juillard de Moutier étaient alignés lors de cette rencontre. Le public de Wengen a faim de podium helvétique. Les courses du Lauberhorn commencent aujourd'hui par un super G. Ça sera tout pile à 12h30. Marco Dormat est le grand favori à la victoire. Mais d'autres Suisses peuvent aussi faire vibrer les tribunes et notamment les chiens fous Alexis Monet et Franjo von Almen. Le Fribourgeois a signé son premier podium de l'hiver fin décembre dans la discipline à Livigno, juste devant le Bernois. Reconnu pour sa prise de risque sans concession, Franjo von Almen est souvent qualifié de fou par les autres skieurs de la Coupe du Monde. On lui a demandé ce qu'il en était.
Nur auf den Ski.
Seulement sur les skis ? Oui, je crois aussi que je le suis. Je veux juste m'amuser et j'en profite pour pouvoir skier de manière relativement détendue et libre. Mais je dirais pas que je suis totalement fou non plus. Mais quelque part, je joue à l'être et parfois ça me fait faire des erreurs. C'est peut-être pour ça qu'on dit que je suis fou. Mais je n'essaye bien sûr pas de créer ces pièges délibérément, mais simplement de skier en toute sécurité.
Et chez Justin Murizier, la folie de la jeunesse n'est plus totalement là, mais sa passion pour le ski l'est toujours. Le Valaisan de 34 ans ne veut pas fixer une date pour sa fin de carrière.
Non, vraiment pas, non. Je suis pas trop focalisé sur le résultat à ces mondiaux ou à ces jeux parce que ma carrière, elle a pas eu autant de succès que ça que je puisse me dire je veux encore une médaille comme il y en a qui peuvent faire. Moi, j'aimerais bien déjà avoir une si je peux un jour ou alors bah, quelques podiums en plus, ça serait bien. Mais le fait que j'aime ce sport et puis que en fait, j'aime ce rythme de vie, en fait, c'est ça qui m'anime et puis pour l'instant, j'ai toujours cette flamme. Et tout ce qui se passe à côté, les blessures, les douleurs, ça passe toujours en deuxième plan pour l'instant. Mais c'est vrai que le jour où j'ai vraiment trop de douleurs, c'est clair que là j'arrêterai et je passerai à autre chose. Ou si j'arrive plus au départ à trouver l'adrénaline que j'ai besoin pour aller jouer tout devant. Parce que c'est vrai que de jouer la deuxième partie du classement, c'est un poil moins intéressant aussi quand même.
Un sujet proposé par notre envoyé spécial à Wengen, Lydiane Gunna. Le départ du Super G sera donné dans quelques, mais même pas une minute. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle journée.
RJB Sport.